Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Le second tour de l'élection présidentielle en République tchèque propose un duel entre le chef de l'État sortant, le pro-russe Miloš Zeman, et un rival pro-européen qui s'appelle Jiří Drahoš. Alors, si le pouvoir du président est limité, les thèmes qui sont débattus à l'occasion de ce scrutin peuvent être déterminants pour les orientations du pays. Membre de l'Union européenne depuis 2004, la République tchèque fait souvent preuve de réticence quand il s'agit d'accepter les contraintes qu'impose l'Union européenne à ses membres. Le refus d'accueillir un quota de réfugiés imposé par Bruxelles en est le dernier exemple en date. Alors, la présidentielle peut-elle ancrer davantage la République tchèque dans l'Europe? On va en parler ce soir avec nos deux invités, que je vous présente tout de suite. Roman Krakowski enseigne l'histoire de l'Europe centrale et orientale à l'Université de Genève, à Sciences Po Paris et à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « L'Europe centrale et orientale », c'est aux éditions Belin. Bonsoir à vous, Roman Krakowski.
Bonsoir.
Et puis Cyril Brett est maître de conférence à Sciences Po, directeur du site Eurasia Prospective. Bonsoir.
Bonsoir. Cyril Brett.
Alors, est-ce que cette élection présidentielle avec deux candidats aux sensibilités très différentes, finalement l'un penchant vers l'Est, l'autre plutôt vers l'Ouest, est-ce que ce scrutin est devenu un référendum pour ou contre l'Europe? Cyril Brett.
Pour ou contre Zeman, assurément. Pour ou contre l'Europe, c'est encore à voir, car en dépit de leur opposition frontale, en dépit de leur opposition symbolique extrêmement forte, on peut trouver aussi, à l'égard de l'Europe, et notamment dans le refus de la politique de quotas d'accueil des migrants, des points communs entre les deux candidats. L'essentiel, en première approximation, c'est de souligner que ce débat strictement national d'un pays, petit par sa population, grand par sa culture, assurément, a progressivement revêtu des enjeux qui sont continentaux, sur la question de l'accueil des migrants bien sûr, sur la question du rapport à Bruxelles et évidemment sur la question du rapport à la Russie, et donc sur l'ancrage dans l'OTAN et dans l'Union européenne de la République tchèque.
Alors je vous pose la même question, Roman Krakowski, est-ce que l'Europe est au cœur du débat de cette présidentielle ou cela n'est qu'un aspect, finalement?
Ben, je pense que pour répondre à votre question, il faudrait se poser la question, ce que c'est l'Europe, justement. Est-ce que c'est l'Union européenne? Dans ce cas-là, la victoire de Drahoš peut favoriser l'ancrage de la République tchèque dans l'Europe. Si l'Europe sont des valeurs européennes, une certaine forme d'humanité, une manière de faire, d'agir, de penser, l'un comme l'autre candidat a des points dans leur programme et dans l'électorat en fait qui posent problème.
Lesquels par exemple?
Ben, il y a plusieurs paradoxes en fait qui ressortent des programmes des deux candidats, et je pense que pour les comprendre, il faut qu'on prennent à la lettre l'émotion qui s'exprime à travers ces programmes, parce que c'est également l'émotion est également une manière de comprendre le politique. Et que cette émotion est mobilisée dans les moments de crise identitaire que traverse la République tchèque, mais l'Europe aussi. Donc il y a trois paradoxes à mon avis. Le premier, c'est un sentiment anti-européen qu'on a déjà mentionné, ou une peur pour la souveraineté nationale qui se retrouve chez les deux candidats, hein, chez Zeman un peu plus que chez Drahoš, mais elle est bien présente chez les deux. Une peur de perdre une identité culturelle, hein, ouais, à travers ce sentiment anti-musulman, musulman, et puis finalement une colère contre un système démocratique qui s'exprime par un appel à un homme providentiel fort et le renforcement d'un exécutif.
D'accord.
Je pense qu'il y a deux points qui sont essentiels. C'est vraiment la question de l'islam et la question du christianisme, c'est vraiment une question identitaire dans la mesure où, sondage après sondage, on voit bien que la République tchèque est un des pays les plus agnostiques ou les plus laïcisés du monde. Et le deuxième point très important, c'est de bien voir que le débat en Tchéquie reflète évidemment des tendances qui sont à l'œuvre partout en Europe, notamment l'affrontement entre un certain type de populisme, c'est un mot valise, mais c'est un mot, et un certain type de libéralisme. Il faut bien conserver en tête que les mouvements qui s'expriment, notamment dans la candidature Zeman ou dans la candidature Babiš, qui est donc le Premier ministre, donne une configuration à leur scepticisme qui n'est pas celle du Front National. Il ne faut pas croire que c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. C'est une traduction très approximative dans la mesure où la République tchèque est très fortement intégrée dans l'outil de production allemand et dans l'ère germanique, dépend très très largement du commerce avec l'Union européenne pour ses pour sa prospérité, qui est grande d'ailleurs, hein, une espèce de miracle tchèque, et que donc la question ne se pose pas en termes de rétablissement des frontières ou de souverainisme, mais bien de défense de l'identité et de la souveraineté nationale dans un sens très particulier, qui est une indépendance qui a été recouvrée très difficilement à l'égard de l'URSS, finalement très récemment, puisque tout ça finit au début des années 90, et qui fait que les Tchèques, mais aussi les Polonais, les Hongrois, sont extrêmement sourcilleux sur le respect de leur souveraineté. Donc, la tonalité du débat, évidemment, a des répercussions continentales, évidemment, aura des conséquences sur l'ancrage de la République tchèque en Europe, mais se pose dans un prisme qui est très spécifiquement Europe centrale et Europe orientale, qui réarticule les termes du débat public selon un autre prisme que l'autre.
Il faudrait mieux comprendre et mieux connaître. Puisque vous parlez populisme, on voit bien que la montée des populismes repose en fait sur trois facteurs. Il y a le sentiment des peuples d'être ignorés, il y a la peur d'être envahi par les réfugiés, puis il y a cette méfiance à l'égard des institutions. Où en est-on, où en sont ces trois caractéristiques plutôt en République tchèque? Laquelle est dominante d'après vous, Roman Krakowski?
Je pense que vous avez mentionné tout à l'heure la spécificité de la région en évoquant l'indépendance qui a été reconquise difficilement dans les années 90. Je pense qu'on peut même remonter un peu plus loin pour rebondir sur votre question. Parce que cet sentiment anti-musulman en fait se retrouve chez les deux candidats. Drahoš parle de la non-compatibilité des valeurs culturelles que l'arrivée de ces réfugiés remettrait en question. Et je pense que en fait, ce qui se joue à travers cette réaction un peu épidermique vis-à-vis des réfugiés ou vis-à-vis des musulmans qui sont inexistants, hein. La République tchèque compte 0,1% des musulmans, donc c'est
pas
rien.
Pas grand-chose, on va
c'est
dire.
Rien, oui. C'est absolument rien. Ouais. Mais je pense que ce qui se joue à travers ce danger d'arriver de nouveaux migrants, de nouvelles minorités, en fait, qui ont une culture, une manière de faire différente, c'est l'expérience du multiculturalisme, notamment dans l'entre-deux-guerres, en fait, qui a été extrêmement conflictuelle. Sans rentrer dans les détails, dans l'entre-deux-guerres, c'est la République tchèque, Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, tous les pays de la région comptaient un nombre très important des minorités, 30% voire plus, et que pour exister, pour assurer leur indépendance, en fait, ces États, ces nouveaux États-nations en 1918, ont dû s'engager à respecter le droit des minorités. Donc c'était la grande devise de l'époque. Or, c'est justement ces minorités qui ont remis en cause l'existence des États lorsque les Allemands en 1938, pour protéger entre guillemets, protéger la minorité allemande, demande aux Tchécoslovaques les Sudètes, qu'ils envahissent la Tchécoslovaquie en 1939 et la Pologne la même année. C'est au nom du même principe de la défense des droits des minorités que les Hongrois obtiennent la Transylvanie en 1940. Donc, en fait, les minorités ou l'existence au sein des communautés nationales des groupes qui ont des langues, des cultures, des identités religieuses différentes, a remis en cause l'existence parfois même des États et des communautés. Mmh. Et je pense que c'est ça qui se joue à travers.
Le recul historique est très éclairant. Il y a aussi, dans cette équation du populisme tchèque, ou des populismes tchèques, il y a le facteur Babiš, qui est un personnage assez atypique.
Vous avez expliqué qui il est.
Alors, c'est le Premier ministre actuel, mais il n'a pas de majorité au Parlement. C'est un homme politique, mais c'est surtout un milliardaire. C'est le fils d'un diplomate tchécoslovaque, et c'est celui qui, en 2011, a créé un parti quasi inclassable, populiste ou pas populiste, c'est le parti Anno 2011, c'est-à-dire le parti des citoyens mécontents, et qui, en Tchéquie, reproduit un phénomène de renouvellement de la classe politique très rapide, très massif, puisque la victoire aux législatives l'année dernière couronne une série de succès aux élections locales, et qui peut rappeler à bien des égards la façon dont les électeurs autrichiens, par exemple, il y a 2 ans, ont congédié leur bon vieux système chrétien-démocrate versus socio-démocrate, et la façon aussi dont, dans d'autres pays, les partis bien établis, qui fonctionnaient sur un bipartisme peut-être parfois modéré par un troisième acteur, est en train de se renouveler. Ce qui se passe en Europe de l'Est, populisme ou pas populisme, c'est, peut-être comme en France, un renouvellement très profond avec de l'offre politique dont les contours deviennent inclassables, qui bousculent les catégories, où vous voyez quelqu'un comme le président Miloš Zeman, qui est un homme de gauche, hein, ça fait 30 ans qu'il milite à gauche, il a lutté contre le communisme, qui fait alliance avec un milliardaire un peu inclassable pour établir un gouvernement minoritaire dont les contours ne peuvent pas être réduits à un trumpisme tchèque ou à un frontisme de Bohème Moravie. Donc, le grand facteur, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui se passe dans le populisme oriental? Oui. C'est une défiance à l'égard des institutions, des élites et du fonctionnement politique normal, régulier, habituel. Et là, c'est une tendance qui n'a rien de spécifiquement folklorique à cette région et qu'on voit à l'œuvre dans bien d'autres pays.
Un cas classique, donc, manifestement. Roman Krakowski.
Ouais, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense que il y a aussi autre chose qui se joue à travers ça. Quand on fait des études sur qui sont les électeurs de Zeman, en fait, on se rend compte que essentiellement, il s'agit de ces hommes et de ces femmes qui, dans les années 70-80, constituaient ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire ceux qui, pour vivre décemment, ont fait profil bas. Ne pas se mêler de la politique et en échange, le régime leur garantissait un niveau de vie à peu près supportable. Donc, dans une partie de la population tchèque, slovaque, polonaise, hongroise, etc., il y a ce sentiment que, en fait, on peut mener une vie décente
en restant discret
ouais. et en déconnectant notre bien-être matériel du libéralisme ou des institutions démocratiques. Mmh. Que, en fait, c'est même en se détachant de ça, en se détachant de la démocratie, qu'on peut obtenir un bien-être et une paix.
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites.
Oui. Pour l'électorat Zeman, on peut aussi ajouter un facteur géographique qui est assez fort, puisque le vote Zeman, donc le vote qu'on pourrait dire populaire, enfin en tout cas le sortant, est concentré dans la région orientale, donc dans la Moravie, et est concentré sur des couches de population et d'électeurs qu'on a vu apparaître, qu'on a vu se manifester, se structurer, notamment à l'occasion de l'élection de Trump. Toutes choses égales par ailleurs, bien entendu.
Mmh. Ça m'amène à cette opposition ville-campagne qu'on évoque souvent quand on parle de populisme. Est-ce qu'il existe cette fracture entre les centres urbains et les zones rurales, Cyril Brett ?
Oui, il y a une surpondération du vote Drauch dans la zone de Prague, exactement comme il y a une surpondération des votes opposés à Orban dans la zone de Budapest. C'est ville-campagne, peut-être encore plus, c'est intégration dans la mondialisation symbolique et moindre degré d'intégration dans la mondialisation symbolique. Notamment, je reviens à la question qui est celle de la diversité. Le recul historique est indispensable, mais notamment l'acceptation du multiculturalisme. Il est évident qu'une population urbaine, jeune, très formée, notamment en langues étrangères, a un rapport à la diversité ethnique, la diversité confessionnelle, qui est très différent de celle des campagnes et des centres industriels. Il ne faut jamais oublier que c'est une vraie puissance industrielle, la République tchèque. Oui.
Je ne suis pas sûr, je pense qu'on se trompe un peu si on réduit cette question à une opposition ville-campagne, parce que même à Prague, vous avez beaucoup de personnes qui ont voté pour Zeman, qui voteront certainement, et que ce sentiment de perte d'identité, en fait, il ne se joue pas sur Zeman contre Zeman, mais cette revendication de souveraineté nationale, c'est le premier point également de l'opposant de Zeman. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, dépasse ces clivages ville-campagne et qui, il faudrait aller un peu plus dans le passé pour retrouver ça. Sa raison d'être.
Alors, vous avez mentionné tout à l'heure que le quota imposé par Bruxelles, en chiffres, il est d'à peu près un millier de personnes, population de 10 millions d'habitants à peu près en République tchèque. Quels sont les arguments, alors, j'allais dire, des uns et des autres, puisque les deux semblent dans le même panier, en l'occurrence, pour refuser d'accueillir ce petit millier de migrants, Cyril Brett?
Bon, alors, l'argument civilisationnel, il a déjà été donné, il est commun, l'incompatibilité des populations musulmanes. Et puis il y a un argument qui lui est très fort, et je reprends et prolonge ce que dit Roman, c'est celui de la souveraineté. L'imposition des quotas, c'est bien, qu'on le veuille ou non, la majorité des États européens qui ont décidé contre la volonté d'une minorité d'entre eux d'imposer la répartition d'un fardeau.
Ouais, mais c'est ça l'Europe, quelque part.
C'est exactement ça, c'est une grande copropriété où même si vous n'avez pas voté les travaux pour votre ascenseur, vous devez les payer. Mmh. Et ça a donné lieu à des démêlés qui sont allés jusque dans les juridictions européennes pour la non-application. On se souvient, la République tchèque n'est pas apparue comme étant particulièrement violente contre la Commission européenne, et on a surtout insisté, notamment du fait de la dégradation des relations franco-polonaises sur le rôle de la Pologne, mais la République tchèque n'est pas en reste par rapport à la Pologne, par rapport à la Slovaquie ou par rapport à la Hongrie dans le domaine. Donc, ce qui est refusé, c'est un fonctionnement à tendance fédérale.
Alors, le temps passe très vite et je voudrais quand même m'arrêter un petit peu sur les profils des deux candidats de ce second tour. Monsieur Zeman, tout à l'heure, qui est arrivé en tête au premier tour. Pour le second, M. Drauš bénéficie du soutien des candidats éliminés au premier. Est-ce qu'on est dans la configuration de tous contre Zeman, Roman Krakowski?
Tous les autres candidats, donc vous avez parlé des deux principaux candidats en lice, tous les autres candidats se sont exprimés pour Drauš, donc par élimination, en fait, il y a deux camps qui se sont constitués. Les résultats du premier vote ont montré que en fait rien n'est gagné, mais rien n'est perdu non plus.
Oui, ça c'est vraiment un point très important. Le TSZ, là, le tout sauf Zeman, est suspendu à deux inconnus. Le report de voix, hein, c'est très classique, et aussi la réserve de voix, puisque on est à près de 40% d'abstention au premier tour. La dynamique des votes peut s'infléchir entre les deux jours, puisque particularité du scrutin, il a commencé aujourd'hui à midi, il sera clos demain à midi, et le comportement, la mobilisation des électorats, et notamment des voix de réservistes, son comportement est incertain, dans la mesure où un TSZ, exactement comme dans d'autres configurations électorales, ça peut à la fois galvaniser les opposants à Zeman, mais ça peut aussi galvaniser les partisans un peu tièdes qui ne s'étaient pas déplacés pour défendre leur candidat à ce qui peut apparaître comme une alliance du système contre Zeman.
Ouais. Est-ce que M. Drauš serait un allié, on va dire, idéal pour l'Union européenne, pourrait rassurer Bruxelles?
Il est plus pro-européen, évidemment, que Zeman. Il se montre un peu plus mesuré sur la question des réfugiés. Il est prêt à... il refuse le système de quotas, mais il est prêt à rediscuter la question de l'accueil.
Voilà, il ne recherchera pas les photos avec Poutine et avec Xi Jinping, comme l'a fait avec une certaine délectation à un goût de la provocation, qui fait partie de la culture politique...
Et du personnage.
Exactement. Le champ lexical qu'il utilise est particulièrement vert, on pourrait dire. Donc c'est sûr que il sera plus acceptable. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire transiger sur la souveraineté nationale et sur la défense de l'identité, je pense qu'on aura affaire au même type de président.
Alors manifestement, rien n'est joué. Le rapport de force semble plutôt équilibré. De quel côté va pencher la balance? Un petit pronostic, Roman Krakowski.
En tant qu'historien, je ne vais pas faire un pronostic.
Non. Vous savez le danger de cette affaire.
D'accord. En tant que prospectiviste, je pense que c'est Zeman qui l'emportera pour deux raisons. D'abord parce qu'il avait, la première fois qu'il avait été élu, il était sorti du premier tour avec un score moindre, de quasiment de 10%. La dynamique est très forte et je pense que dans cette réserve de voix, comme je viens de le laisser entendre, dans cette réserve de voix, notamment dans le vote populaire, je pense qu'il y a des réserves pour Zeman. Ouais. Il ne faut pas oublier que les électeurs tchèques ont envoyé Hanno et Babiš en première place aux dernières législatives.
Bon, la réponse à nos questions, à cette question en tout cas, dès demain midi, c'est ça, hein?
Oui, voilà, c'est le privilège du prospectiviste sur l'historien. On peut prendre des risques et dire n'importe quoi.
Oui, sur RFI, bien sûr, on vous donnera tous les résultats et les réactions à ce scrutin important pour l'Europe, manifestement. Merci à tous les deux.
Merci
Roman
à vous.
Roman Krakowski, qui enseigne l'histoire de l'Europe centrale et orientale à l'Université de Genève, à Sciences Po Paris et à l'Université Paris-Sorbonne. Je rappelle le titre de votre bouquin, L'Europe centrale et orientale, aux éditions Belin. Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po, ancien professeur des sciences politiques à l'Université de Moscou également. Merci également à Florence Ponce qui prépare ces débats, Laurent Philippot qui réalise cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, un nouveau journal.